Vous écoutez On lit pour vous.
Ce dont le Québec a besoin, un texte de Marie-France Bazot, paru le 15 mai 2024, dans la presse. Il y a de moins en moins de Québec et de plus en plus de Québécois qui ne pensent qu'en fonction de leurs intérêts personnels. Le Québec a besoin de s'aimer, d'avoir confiance en son potentiel. Chers lecteurs, vous êtes épatants. Mardi, le 14 mai 2024, je vous posais une question. De quoi le Québec a-t-il besoin? Elle s'inspirait de celle de l'essai collectif que j'avais dirigé en 2011. C'était une période où le Québec était au bord de l'implosion, où il en avait ras-le-pompon du gouvernement Charest. Ça sentait la corruption, le cul-de-sac, l'absence de vision. Nous étions en fin de cycle politique. En 2024, 2 ans après une pandémie qui a marqué un point de rupture, la vie politique est encore en train de se reconfigurer. Des fractures sont apparues, béantes, qui nous divisent et nous épuisent. Une fois de plus, nous sommes à la fin de quelque chose. La question de savoir ce dont le Québec a besoin, très vaste, fait ressortir aspirations et soupirs chez nombre d'entre vous. D'abord, un immense merci. Vous avez été des centaines à vous manifester et à donner vos réponses, parfois très développées. J'ai passé des heures à vous lire, ravie, à trier vos réponses, à les organiser par thème et surtout, pour le dire trivialement, à pogner de quoi. Car très rapidement, une différence fondamentale d'avec le mood de 2011 s'est imposée. L'écœurantite d'il y a 13 ans était explosive. Ce que vous exprimez aujourd'hui est plutôt une lassitude, une démission tranquille. Vous soulevez des enjeux précis, circonscrits. Votre analyse relève de la psychologie. C'est frappant. L'autre chose qui saute aux yeux en vous lisant est la dissonance entre ce qui vous préoccupe et les thèmes qui font la une des médias. Les sujets qui vous mobilisent profondément ne sont ni la santé, ni la langue, ni la crise climatique, sauf exception. Les woke, les chicanes gauche-droite ou l'immigration ne vous obsèdent pas. Les enjeux partisans vous laissent de marbre. Vous êtes plutôt porté par des envies, des désirs d'engagement personnel. Vos aspirations collectives sont pragmatiques et on sent le désabusement post-pandémique. Un des rares aspects où il est question de collectif, chez certains d'entre vous, je dirais 20%, c'est lorsque vous évoquez l'avenir constitutionnel et politique du Québec. Les mots « indépendance »,« autodétermination », l'idée d'être maître dans sa demeure sont souvent revenus dans vos réponses. Certains parlaient de rupture avec le Canada et d'autres d'autonomie. Chez les souverainistes, la figure de Paul Saint-Pierre Plamondon, PSPP, revenait souvent en leader inspirant, faisant de lui l'un des rares politiciens actuels que vous avez cités. Alors, de quoi le Québec a-t-il besoin? D'une réforme majeure en éducation. À vous lire, ça, c'est le sujet collectif qui vous allume. Nous avons besoin d'un vaste projet rassembleur en éducation, du primaire à l'éducation supérieure, d'un redressement intensif et d'une réflexion poussée. Créons le meilleur système d'éducation publique au monde. Besoin d'un système d'éducation qui fédère tous les élèves. Le seul lien collectif qu'il nous reste est l'école, dit une prof de polyvalente. L'école ne socialise plus, se désole une autre. Mettez Guy Rocher et Gide Royer dans un bureau avec des profs, sans fonctionnaires, et vous allez voir ce qui va en sortir, s'écrit un ex-prof au primaire. La question de l'accès quasi impossible au logement vous inquiète. La situation des jeunes, revient souvent dans vos mots. Vous souhaitez des politiciens qui travaillent pour les futures générations, pas pour les futures élections. De jeunes dirigeants, de jeunes entrepreneurs, des jeunes femmes et hommes d'État. Il faut écouter les jeunes. C'est pour vous un leitmotiv. De quoi le Québec a-t-il besoin? Vos réponses sont très majoritairement teintées par une soif de qualité psychologique, mais à l'échelle d'une nation. Sauf pour les nationalistes, la soif de collectif ne réfère pas tant à un projet de pays qu'à un retour du groupe. Il faut revenir à l'esprit communautaire, de la solidarité, sortir de l'ego.com, travailler pour le bien commun, être moins individualiste, réapprendre à dire « nous ». Vous pointez l'atomisation de la société. Elle vous pèse. Dans ce triomphe de l'individualisme, l'absence du « nous » vous tiraille. Dans la même mouvance, vous en appelez à la fierté, au positivisme, et ça commence par les médias, à la bienveillance, la rigueur, la compétence, l'apaisement, l'indulgence, la compassion, l'entraide, la réflexion, bref, à des valeurs communes. Replacer l'humain au cœur de nos décisions, avoir de la vision et du courage. Un idéal, un projet de société porteur, plutôt que des décisions à la pièce et des mesures électoralistes. De rêver et de se faire confiance. De fierté, car le Québec souffre de complexes par rapport aux États-Unis et à la France, remarque une franco-québécoise, ici depuis 22 ans. Presque personne ne parle de leader fort qui donnerait des coups de pied au cul métaphoriques, contrairement à 2011. Faut-il y lire un trop-plein de nos années pandémiques où la gouvernance paternaliste nous a saoulés pour longtemps? Mais la réponse qui est revenue le plus souvent à ma question a été l'amour. Besoin d'amour, de s'aimer, d'aimer le Québec, de self-care, de câlins, d'attention. Comme si le Québec était un humain magané, un peu perdu, lâché par sa famille. Que fait-on avec ce constat? On se part un parti pour orphelin politique? Le PAC? Le parti de l'amour Chris? En tout cas, merci pour votre folle générosité. C'était « Ce dont le Québec a besoin », un texte de Marie-France Bazot, paru le 15 mai 2024 dans La Presse.
Le maire qui est rentré à la maison. Un texte d'Yves Boisvert, paru le 15 avril 2024 dans La Presse. Dans la capitale du Montana, les rues s'appellent Prospect, Saddle, Gold Rush ou Last Chance, et le maire est un réfugié africain. Je vais vous raconter comment nous avons, je ne veux pas dire découvert le Montana, mais comment nous sommes aboutis ici, comment ce Wilmot Collins, qui me reçoit dans son bureau à l'hôtel de ville d'Helena. Collins, 60 ans, a causé une sorte de commotion en 2017, quand il a remporté la mairie. Cet homme, né au Libéria, sans la moindre expérience politique, a défait le maire sortant, James Smith, un Montanais de souche en poste depuis 16 ans. Jamais avant, ni depuis, un Afro-Américain n'a été élu maire au Montana, l'État le plus blanc de l'Union. Au secondaire, sa femme, Magdalene, avait fait un échange étudiant dans une famille du Montana. De retour au Libéria, elle a entrepris des études de médecine et rencontré Wilmot, professeur d'anglais à Monrovia. En 1989, la guerre civile éclate. Un soir, les soldats entrent à l'hôpital où Magdalene est résidente. Ils cherchent des rebelles. Il était temps de fuir. Il se souvient des 3 jours au sol à entendre siffler les balles qui traversaient les murs. De sa mère, qui lui a mis un billet de $5 dans la main quand un navire est venu chercher des réfugiés. Il était 21h57 ce dimanche quand Magdalene et lui se sont embarqués. Les barrières se sont fermées à 22 heures, laissant derrière des milliers de personnes désespérées. Nous étions peut-être 10 000 à bord de ce cargo, tous debout comme des sardines dans une boîte. Le lendemain, on a entendu des pleurs et des cris. Des gens étaient morts d'épuisement sur le bateau. Il fallait jeter les corps par-dessus bord. Dieu merci, ma mère n'est pas venue. Ils ont abouti au Ghana, dans un camp de réfugiés. Il a pris un taxi avec ses 5 $ et s'est rendu au bureau local de SOS Children, l'organisme pour orphelins pour lequel il enseignait dans son pays. Il n'avait pas de papier. 3 anciens élèves se sont mis à pleurer en le reconnaissant. Il pesait 42 kilos. Il a recommencé à enseigner, tandis que sa femme aidait à la clinique. Après 3 mois, elle a dit « Je veux partir au Montana ». « Je croyais que tu rêvais d'aller en Amérique. » »« C'est en Amérique, le Montana, Wilmot. » La famille de l'échange étudiant a aidé Magdalene. Elle a eu ses papiers pour étudier les sciences infirmières. 2 semaines avant de partir, elle est tombée malade. Le médecin est venu voir Wilmot. « Félicitations, vous allez être père. » Elle a accouché seule à Helena. Wilmot a eu son billet d'avion 2 ans plus tard. Il a appelé Magdalene. Tu vas adorer ça, le Montana. Il y a combien de noirs dans ta classe? Il y en avait un autre dans toute l'école. J'étais très surpris, parce qu'à la télé et dans les films américains, il y a des noirs partout, se souvient Wilmot Collins. À l'atterrissage à Helena, le pilote a parlé d'une journée ensoleillée et chaude. Il fait 0 degré. La glace gèle à 0. « Ils sont fous, ces gens, j'ai pensé. » Il est tombé à genoux devant sa fille. Il a pleuré sans arrêt. Il arrête son récit pour s'essuyer les yeux. « Excusez-moi d'être ému. Chaque fois que je raconte ça, je pense que je vais passer par-dessus, mais je ne pourrai jamais. » Il était donc là avec sa femme et sa fille, parrainé, certes, mais pas de job, pas d'argent. Le jour, il se promenait dans la ville. J'ai vu le Capitole de l'État, ce superbe édifice. Je suis entré. Il y avait écrit « Bureau du gouverneur ». Tiens, je vais aller voir le gouverneur. L'adjointe m'a demandé si j'avais un rendez-vous. Je n'en avais pas. Elle a dit « Remplissez ce formulaire, on vous rappellera ». Pendant que j'écrivais, un gars s'est approché. « Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ?»« Je viens voir le gouverneur ». « C'est moi, le gouverneur. Entrez. D'où arrivez-vous comme ça ?»« Du Libéria. »« Ah, là où les esclaves américains ont fondé un pays. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Il a tendu son CV et le gouverneur, Mark Racicot, un républicain, puisque vous demandez, a fait venir son adjointe. « Pat, comment pourrions-nous aider M. Collins ?» Un poste venait de se libérer dans un foyer pour jeunes. 2 semaines plus tard, il était éducateur. « C'est la foi, Yves. Le Seigneur travaillait pour moi. Trop de choses folles me sont arrivées », affirme Wilmot Collins. Vous écoutez « Le maire qui est rentré à la maison », un texte d'Yves Boisvert paru le 15 avril 2024 dans La Presse. Il est entré dans la garde nationale à 31 ans. Il a fait le boot camp avec des jeunes de 17 ans et finit premier de sa cohorte. Il était entre-temps entraîneur de soccer et de baseball des filles et des garçons, impliqué dans la défense des droits de la personne et membre de la chorale de l'Église méthodiste, qui, sur des centaines de membres, comptait et compte encore 3 Afro-Américains, dont sa femme et lui. Il a ensuite intégré l'armée à Fort Carson. Il était chargé d'annoncer la mort des soldats américains à leurs parents pendant la guerre en Irak. « J'ai fait ça pendant 11 mois. C'est très éprouvant. Les gens, d'ordinaire, ne durent pas plus de 3 ou 4 mois dans ce boulot. » En 2017, il était de retour à la protection de la jeunesse, avec toutes ses activités sociales, mais du temps libre sans la garde nationale. Son fils lui a dit « Tu devrais faire de la politique. » Wow, wow, pas question, je ne connais rien à ça. Tu nous as toujours dit de nous impliquer dans la communauté. C'est le temps de vivre selon ton credo. On est donc en mars 2017 et Wilmot Collins, néophyte total, se présente. Pas comme conseiller, comme maire. J'ai fait du porte-à-porte. J'ai fait campagne pour le logement social, pour loger les sans-abri et pour financer les services d'urgence. Je n'avais rien contre le maire. J'allais aux maisons où des gens le soutenaient et je parlais. Un jour, une femme a enlevé la pancarte du maire et a mis la mienne. À minuit, le soir de l'élection, très serré, le sénateur John Tester l'a appelé pour le féliciter. « Mais ce n'est pas encore officiel, monsieur le sénateur. »« Écoute, Wilmot, tu as gagné. Ce n'est pas mon premier rodéo, » a dit ce rancher, pour qui c'est à peine une figure de style. Les appels sont venus de partout dans le monde pour ce premier réfugié africain maire au Montana. Sa popularité locale n'a fait que croître. Il a été réélu en 2021 avec 36% d'avance. Vous me racontez ça comme une sorte de voyage idyllique. Vous n'avez jamais rencontré de racisme? Oh oui, j'en ai vécu. Beaucoup même. Un samedi matin, quelque temps après notre arrivée, mon voisin m'avertit que des gens ont écrit des graffitis sur mon mur. « Retourne en Afrique. KKK. » Quand il est revenu du poste de police, une vingtaine de voisins finissaient d'effacer le graffiti. Il s'essuie les yeux à nouveau. Une autre fois, de jeunes hommes ont été arrêtés pour avoir tenté de faire brûler sa voiture. Je retiens tout le positif qui en est ressorti. Les gens d'Helena ont vu au-delà des apparences. Ils m'ont choisi comme leur leader. Quand les gens ont commencé à me connaître et vu que j'étais sans danger, ils ont vu que les histoires sur les dangers des réfugiés étaient fausses, parce que voici un vrai réfugié qui entraîne vos enfants au soccer, qui chante avec vous à la chorale de l'église. Voilà pourquoi je vis ici. C'est ma place. Helena est plutôt démocrate. Mais il n'est pas rare qu'un citoyen dise à Wilmot « J'ai voté pour Trump, je vais revoter pour lui, mais je t'appuie. » Même s'il a brièvement été candidat démocrate à la Chambre des représentants en 2019. Je fais de la politique centriste. Le logement, ce n'est pas démocrate ou républicain, soutient Wilmot Collins. N'empêche, il est inquiet de l'état du pays. Il y a tant de haine. Certaines de ces choses étaient cachées et Trump les a fait remonter à la surface. Nous sommes tous les mêmes, mais des gens instillent la confusion entre nous. Un chercheur l'an dernier lui a appris que deux Collins affranchis de l'esclavage avaient quitté le Maryland pour aller vivre au Liberia au 19e siècle, comme des milliers d'autres. Quand ils arrivaient au Liberia, les anciens esclaves nommaient les lieux en fonction de là où ils avaient vécu aux États-Unis. Il se trouve que ma ville de naissance au Liberia s'appelle Maryland. Je n'ai fait que rentrer à la maison, au fond. Après avoir construit ce pays, je l'ai quitté il y a 200 ans et je suis revenu. C'était « Le maire qui est rentré à la maison », un texte d'Yves Boisvert paru le 15 avril 2024 dans La Presse.
Quatre outils pour aider à bien vieillir. Un texte de Normand Baillargeon paru le 26 février 2024 dans avenue.ca. J'ai récemment vu passer une publicité qui m'a fait tout à la fois sourire et grincer des dents. C'était pour un T-shirt sur lequel il était écrit, en anglais, « Ça fait tout drôle d'avoir le même âge que les vieux. » En effet, ça fait drôle. Mais d'un humour qui fait beaucoup rire jaune et un peu grincer des dents. J'ai 65 ans. Il y a 45 ans, il y aurait déjà eu bien longtemps que j'aurais déclaré vieille la personne que je suis en ce moment. Le paradoxe, que souligne le T-shirt que je ne me suis bien entendu pas procuré, est que ce n'est pas le cas. Du moins, pas toujours. Ou pas tout à fait. Force est pourtant de le concéder. Du point de vue du temps qui passe, j'ai bien et objectivement vieilli. Mais même cette indéniable réalité, je suis depuis 15 ans déjà admissible à la FADOC, ne parvient à moi que par moments, comme en un éclair bien vite passé. Dans ce bref moment de lucidité chronologique, je me dis alors, avec Aragon, « Que s'est-il donc passé? La vie, et je suis vieux, le vieil homme. » Et je retourne très vite au tourbillon des jours, là où cette vérité est un moment oublié. Mais elle me revient sans cesse, par mille détours. Je lui fais d'abord face avec deux précieux outils découverts durant ma vie, des outils qui m'ont toujours été d'un grand secours et qu'ils sont cette fois encore. Le stoïcisme. C'est la philosophie qui m'a donné le premier, plus précisément une riche et précieuse école appelée stoïcienne. On reproche parfois à la philosophie de ne pas être utile en pratique, concrètement. Le stoïcisme fait mentir ce préjugé. Dans sa 58e lettre à Lucilius, Sénèque rappelle avec raison que le passage du temps est indispensable pour qu'il y ait de la vie et que la vieillesse et la mort en font donc nécessairement partie. Mais il précise que cette vieillesse peut être heureuse quand, du moins, l'âme n'est pas flétrie, quand les sens, dans leur intégrité, prêtent force à l'intelligence et que le corps n'est point ruiné et mort avant le temps. Grande est, en effet, la différence entre une longue vie et une mort prolongée. Il ajoute « Il est doux d'être avec soi-même le plus longtemps possible, quand on s'est rendu digne de jouir de soi. » Dans le cas contraire, les stoïciens rappellent qu'on peut choisir de ne pas attendre la mort. « Je ne fuirai point la vieillesse si elle doit me laisser tout entier à moi, tout entier dans la meilleure partie de mon être. Mais si elle vient à saper mon esprit, à le démolir pièce à pièce, si elle me laisse non plus la vie, mais le souffle, je m'élancerai hors d'un édifice vermoulu et croulant. » Je me réjouis qu'en un sens, avec le suicide assisté, nos politiques publiques se soient quelque peu faites stoïciennes. Toutefois, il est plus que jamais possible de retarder le moment où le corps est ruiné et mort avant le temps. C'est la science qui me fournit, comme à nous tous, ce deuxième outil. La science. La recherche scientifique crédible pointe en effet vers 8 habitudes de vie qui améliorent l'espérance de vie en bonne santé. Les voici. Ne pas fumer. Bien dormir, manger sainement, être actif, maintenir une glycémie normale, maintenir un poids corporel normal, contrôler le cholestérol, contrôler la pression artérielle. Je m'efforce donc, sagement, de suivre ces sages prescriptions. Mais que faire de ce temps acquis? Hier, le temps long, c'était celui de l'avenir. Aujourd'hui, c'est celui du passé. Que faire de cet avenir qui raccourcit sans cesse? Cette fois encore, deux outils me sont vitaux. Ceux-ci sont entrés plus récemment dans ma vie. Ils pourront, à première vue, sembler en tension l'un avec l'autre. Je fais le pari que, réflexion faite, comme moi, vous conviendrez qu'il n'en est rien. L'oubli de soi. Tant que mes forces me le permettront, je vais travailler à ce que j'ai toujours fait, étudier, écrire. Mais ce travail, je m'en rends compte, devient de plus en plus porté vers autrui, intéressé par ce qui me semble, par ce qui est en fait au-delà de moi. Nulle religion là-dedans, en ce qui me concerne, mais un sens profond que ce qui est précieux me dépasse et que c'est à l'atteindre que la vie doit servir. C'est mon cher Bertrand Russell qui a le mieux exprimé ce que j'essaie de dire. Russell, 1872-1970, a en effet vécu près de 100 ans, 97 ans en fait. Et sur le vieillissement, qu'il a longtemps connu, il avait à dire ceci qui est exactement ce que je ressens et essaie de vivre. « En vieillissant, disait-il, élargissez progressivement vos intérêts et rendez-les plus impersonnels jusqu'à ce que, peu à peu, les murs de l'ego s'effacent et que votre vie se confonde de plus en plus avec la vie universelle. L'existence humaine individuelle devrait être comme une rivière, petite au début, étroitement contenue dans ses berges et se précipitant avec passion sur les rochers et les chutes d'eau. Peu à peu, le fleuve s'élargit, les rives se retirent, les eaux s'écoulent plus tranquillement et, à la fin, sans rupture visible, elles se fondent dans la mer et perdent sans douleur leur être individuel. Un étonnant retour à soi, comme à un autre. Mon dernier outil pour vivre heureux une longue vie m'est révélé quand, happé une fois de plus par ce « que s'est-il donc passé ?» la vie et je suis vieux. Je vois cette indéniable réalité de mon vieillissement, mais cette fois pour y contempler mes proches qui m'entourent et que le temps qui passe sans cesse et m'a fait vieux a été nécessaire pour faire advenir. Vieillir est aussi prendre part à la naissance de tout cela, et rien ne pourrait me faire souhaiter ne pas être là, en ce moment. Je n'entre pas dans les détails, vite autobiographiques et intimes, mais cette rivière large dont parlait Russell, plus haut, comprend aussi tous ceux-là que j'aime et qui m'aiment. Et c'est la même eau qui y coule, où se joignent mystérieusement l'impersonnel et le personnel, l'universel et le particulier, le lointain et l'immédiat. Je soupçonne d'ailleurs que cette rivière a pour nom « amour » et que l'eau qui y coule est un élixir de longue vie, efficace seulement pour les idées qui en valent la joie. C'était « 4 outils pour aider à bien vieillir ». Un texte de Normand Baillargeon, paru le 26 février 2024 dans avenue.ca.